Alors, nous allons continuer le cours qu'on a de la semaine dernière. On a parlé de l'histoire de Hanouka et ce qui s'est passé après l'histoire de Hanouka, la suite. En deux mots, l'histoire de Hanouka nous présente la famille de Hashmonaïm au moment où ils étaient des tzadikim. Aussi Matika ou aussi ses enfants, c'était tous des tzadikim. Et pas des tzadikim simples, des très très grands tzadikim kedoshim, comme on dit dans le tu. Tumeyim beyatehorim, reshaim beyat tzadikim. Kadosh Baruch Hu fait des miracles grâce aux Hashmonaïm. Après que les frères y sont niftar, il y a une nouvelle situation. Donc le dernier des frères, il s'appelait Shimon, qui était aussi un tzaddik, le dernier des frères, Shimon, qui était aussi le Kohen Gadol. Jonathan aussi était le Kohen Gadol, Shimon était le Kohen Gadol, c'était la famille de Kohanim, qu'ils étaient chefs armés, qu'ils étaient des Hachamim, qu'ils étaient des tzaddikim Kohen Gadol, tout est bien. Après Shimon, c'est son fils Yohanan Kohen Gadol. Il y en a qui s'appellent Yohanan Hurkenus. Maintenant, il y a beaucoup de noms de Yohanan et de Yanaï et de Hurkenus et d'Aristoblus. Et ça s'enchevêtre. Il y a plusieurs fois ces noms de tous les côtés. Des fois, dans l'histoire qu'on raconte, on ne sait pas exactement de quel Hurkenus, de quel Yanaï on parle. Étant donné qu'ils avaient la coutume, la Havdil, comme chez les Goïm, de donner le nom du père au fils, et au neveu et au petit-fils, des fois c'est un peu embrouillé. Mais en gros c'est comme ça. Shimon HaTzadik, il avait un fils qui s'appelait Yohanan Hurkenus, qui était au début de sa vie un tzadik. Il faisait tout, un pire, Chachamim était bien guidé, mais la seule erreur qu'il a fait, que doucement, doucement, il y a des tzadikim qui se sont infiltrés dans son cercle. Et les Chachamim n'ont pas empêché ça, étant donné que c'était des gens, les Tzadikim étaient des gens qui, dans un premier moment, ils ont bien sûr se comporté comme un juif religieux, étant donné qu'avant l'histoire de Hashmonaïm, les juifs pas religieux, qui étaient anti-religieux, alors ils ont reçu une immense honte du fait que les Hashmonaïm, ils ont lutté contre tous les gens qui n'étaient pas religieux. Donc les gens qui n'étaient pas religieux, après l'histoire de Hanouka, ils sont automatiquement devenus religieux. On ne pouvait plus être pas religieux au début. Tout le monde était devenu religieux. Mais il y a qui sont devenus religieux. Et qui étaient religieux, c'est vraiment aminé. Il y en a qui étaient pour la circonstance. Ceux qui voulaient faire partie de la politique autour de Shimon Kohen Gadol et Yohanan, forcément, tout le monde était obligé d'être religieux, mais il y en a qui étaient religieux, mais de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et ils aimaient les tzadikim, des gens moins religieux, ils aimaient beaucoup le pouvoir, ils se sont infiltrés autour de lui. Ça, ça a été son erreur. À tel point qu'après, au milieu de la vie, il est arrivé une catastrophe. Cette catastrophe, nous avons déjà parlé la semaine dernière, qu'à un moment, il a tourné. Vous vous rappelez l'histoire, et il a fait un grand repas. Je vous ai raconté ça? Et pendant le repas, il y a un des Chachamim qui se levait, il a dit, monsieur, ne soyez pas Kohen Gadol, je vous demande, ne soyez pas Kohen Gadol, étant donné que votre mère était prisonnière. Toute cette histoire, et le type, il a tourné. Évidemment, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans l'État d'Israël, parce que maintenant, commence l'époque jusqu'au Korban du Beit Hamikdash, où il y a, dans le peuple juif, des différents groupes que souvent ils se combattent. Et des gens religieux et des gens pas religieux et des hommes politiques. Des fois, il y a différentes sortes des hommes politiques et tous sont en train de se battre. Et les Chachamim conduisent le peuple. On voit dans Flavius qu'il y a le peuple, la grande majorité du peuple, qui ne supporte pas ses chefs politiques. Les chefs politiques, un après l'autre, ils ont fait un championnat qui est plus tordu, qui est plus corrompu, qui est plus égoïste, qui est plus vulgaire parmi les hommes politiques. Et les Chachamim, ils ont fait une autre politique, une politique le peuple aime les Khachamim et la politique indépendante des officiels. Les officiels, ils sont devenus toujours plus et plus attachés au gouverneur Goy de Syrie, de Rome, d'Égypte. Ils cherchaient régner sur le peuple juif avec le pouvoir, avec le droit, avec l'aide des Goyim. Et il y en a certains qui étaient carrément contre le peuple juif, des rois juifs, des politiques juifs, carrément contre le peuple juif. Et le peuple était avec les Khachamim qui étaient des gens gentils.
Quoi? Parce que le
roi,
il était juste.
Alors, ils étaient désignés, nous allons voir comment ils étaient désignés. Après que Shimon HaTzadik est nictar, c'est son fils Yochanan Hourkanus. Après ce fils Yochanan Hourkanus, il est devenu Tzadoki, il avait un fils Yanaï HaMelech, qui était aussi, nous allons voir encore un peu, on a déjà commencé la semaine dernière Yochanan HaMelech, on va continuer encore un peu sur Yanaï HaMelech, qui était aussi un fou furieux, un assassin terrible. Oui.
Les Kohen Gadol, ils sont grands aussi.
Alors, les Kohen Gadol, ils étaient normalement. Yanaï HaMelech, il se nommait Kohen Gadol lui-même, il se nommait Kohen Gadol. Et après, il y avait deux fils, Hourkanus. Il avait eu deux fils, Hourkanus et Aristobulus. Et un en nommait Kohen Gadol et l'autre en nommait roi, après la mort de Yanaï HaMelech. Et ce Hourkanus était un homme très faible. Aussi affilé au Tzadokim et à Aristobulus aussi. Les deux, ils étaient dans le camp des Tzadokim. Mais, il était Shomer Shabbat, c'était un homme Shomer Shabbat, mais un homme qui était politiquement et aussi religieusement proche des Tzadokim. Alors, les Khachamim ne pouvaient rien faire, les Khachamim, ils n'aimaient pas la bagarre. Ils n'aimaient pas qu'il y ait une guerre civile entre les Juifs. Donc, ils se sont séparés de la politique. Alors donc les autres, ils avaient le pouvoir, les autres, ils avaient l'armée, les autres, ils avaient une armée Goy, les rois, ils avaient une armée Goy, Yanaï HaMelech, il a loué des Goyim comme armée, pourquoi? Alors ça fonctionne comme ça, il faut bien comprendre. Hein? On voit que les Hachmonaïm disent aux Juifs, il faut faire la guerre pour envoyer les Grecs, parce qu'ils ne nous laissent pas faire la Torah. Donc les gens, bien, ils ont fait la guerre. Des Tzadikim, ils ont fait la guerre. Ils ont fait avec l'épée, ils ont fait la guerre. Une fois qu'ils ont ces guerres, ils ont duré 25 ans. Mais après, on ne pouvait faire la Torah. Ça y est, c'était permis de faire la Torah. Mais beaucoup des Goyim étaient encore en Eretz Israël. Et les Juifs, ils n'avaient pas une liberté absolue vis-à-vis des Goyim. Mais on pouvait faire Torah en Mitzvot. Du moment qu'on pouvait faire Torah en Mitzvot, les Khachamim, ils ont dit, ça y est, c'est bon. On ne fait plus de guerre, ça y est. Ils nous laissent tranquille. Eh bien, il y a un peu des Goyim qui sont les chefs. On ne fait pas la guerre pour avoir l'indépendance absolue. Comme ça, Shimon Meshet a dit, on fait pas la guerre pour avoir l'indépendance absolue. Il y a d'autres juifs qui voulaient avoir l'indépendance absolue, ils ont fait la guerre. Il y en a un mec qui voulait avoir l'indépendance absolue. Une partie de sa vie, il a réussi à faire. Mais pour ça, il était obligé de louer des hommes, des goyim, pour avoir une armée. Il est parti donner de l'argent à des Syriens, à des Grecs, d'Égypte, il a loué des Goyim, faites-moi la guerre pour chasser les autres Goyim. Mais si tu loues un Goy, le Goy vient habiter dans ta ville, dans tes villes, on est à Tisraël. Alors, à Tisraël, qui pouvait des Goyim, une partie était des soldats, avec tout le balagan que ça donne. Et après, il y en a d'autres Juifs, chez un avec deux enfants, lui, il a loué une armée. L'autre, il a loué un autre armée Goy. Ils se sont combattus entre eux. Chacun avait un peu des Juifs aussi. Mais l'écart de guerre civile était fait par les Goyim et un peu par des Juifs aussi. Et les Khachamim, ils ont dit, à quoi ça sert de faire une guerre? On peut faire Torah Mitzvot, ça suffit. Maintenant, on peut faire Torah Mitzvot, ça suffit. Non, il y en a même qui voulaient aller à la conquête. Alors, la semaine dernière, j'ai déjà parlé, il y a des choses qui nous ont obligé encore de développer après beaucoup plus. C'est le fait que Yochanan Hourkanus, il a conquis la Jordanie. Il a conquis un peuple qui s'appelle Édom. Je vous l'ai déjà dit. Les Édomim, les descendants des Esav. Yochanan Hourkanus, il les a soumis. Ça veut dire que Édom est devenu une colonie du peuple juif. Et Yochanan Hourkanus, il a eu cette idée phénoménale, plutôt. Je pense que ça s'appelle saugrenu, on appelle ça. Une idée de folie. on va obliger les Edomim de devenir juifs, de faire Torah Mitzvot. Il les a obligés. Contre leur gré, où tout le monde fait la brit mila, tout le monde fait Shabbat, tout le monde mange kasher. Mais eux, ils ne voulaient pas. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui voulaient, oui. La majorité ne voulait pas, mais ils les ont obligés de faire. Les conséquences de cette conversion de masse contre le gré des Goyim a eu après des conséquences dramatiques jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi, comme il dit le Kuzari, après on va développer ça plus, le Kuzari dit que c'est ce peuple des Edom qui sont devenus les premiers disciples du christianisme. C'est eux qu'ils ont créé après, ceux qui sont rentrés dans le christianisme. C'est les demi-juifs qui ne veulent pas faire bien les Torah Mitzot, un peu oui, un peu non. Après eux, ils ont fabriqué un judaïsme bis, qui est devenu, et après, à fur et à mesure, c'est devenu le christianisme. La racine de ça, c'est bien de Yohanan Burkunos. Et les Tzoukim qui étaient autour, qui pour eux aussi un judaïsme abrégé, un judaïsme raccourci, c'est un bon judaïsme. Aïka, c'est l'argent, le pouvoir, en règle, on fait un peu le judaïsme aussi. Ça c'était la cité des Tzoukim. Maintenant, nous allons voir encore un peu Yanaï Hamelech. On a encore quelques petites choses à raconter sur Yanaï Hamelech. Comme je vous ai dit, il est devenu un tzedouki. Maintenant, les tzedoukim, là où ils cherchaient, là ils pouvaient trouver une soi-disant faille dans le judaïsme, ils se sont toujours accrochés. Quelle faille? C'est pas une vraie faille, mais une faille imaginaire. Il y a une partie de la Torah qui n'est pas écrite dans la Torah. Sauf Chachamim raconte comme ça, Moshe Rabbeinu l'a dit. Ah, ça n'est pas marqué dans la Torah. Eh bien, on conteste. Les contestataires, là où on peut contester, on conteste la vérité, on ne peut pas contester. Personne ne peut contester la Torah orale, mais vis-à-vis de Amaratim, on peut dire je conteste. Donc, il y a une mitzvah qui n'est pas marquée dans la Torah orale, qui s'appelle pendant Sukkot, on verse de l'eau sur le misbéach. On appelle ça Nisuf Hamaim, verser de l'eau. C'est Halakha de Moshe Mishinaï, que pendant les 7 jours de Sukkot, à part le vin qu'on verse sur le misbéach qui est marqué dans la Torah, Nisuf Hamaim, Veniskehem, Chatzi Haïn, la part où Shlishit Haïn, la Haïn, le Rolitin, le Keres Yain, chaque korban, tzibur, on verse du vin, alors verser de l'eau, Sukkot, ça n'est pas marqué. C'est marqué dans un avis où chaque témaïn, les Sasson, Maïn et Aïchoua, on verse de l'eau. C'est des grands secrets, qu'est-ce que c'est verser de l'eau, mais nous ne sommes pas là maintenant pour expliquer la raison pourquoi la Torah elle a donné cette mitzvah. En tout cas, il y a une mitzvah comme ça, qui fait partie de la Torah Shebaalpé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces tzidoukim? De la même façon que vous vous rappelez, pendant le fameux festin, qu'un tzidouki a dit, mettez-vous le tzitz, il a dit, ayol kanonur kunus, pour tester si les chachamim sont contents de votre œuvre. Et il a fabriqué qu'un des chachamim, il a contesté son droit d'être Kohen Gadol, et après il s'est énervé contre les chachamim, que soi-disant ils ont insulté le roi. Alors il a fait aussi une provocation sur Yannemer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se nommait Kohen Gadol. Kohen Gadol, donc le Kohen Gadol, il a le droit de choisir n'importe quel travail qu'il veut faire au Beit HaMikdash. Il arrive sous côte, tout le Beit HaMikdash, il est bourré des Juifs. Kohanim, Levim, Israël, tout le monde est là, tout le monde on chante la Hadal, on fait des korbanot. Après il arrive la mitzvah de Nisuf Hamaim. Donc, lui Yannemer, le Kohen Gadol, on lui donne donc la carafe avec l'eau qu'on a puisée. Madame, monsieur, le Kohen Gadol, verser ça sur le misbéach. Qu'est-ce que lui fait? Avant de rentrer à Beit HaMikdash, il a pris quelques milliers de soldats goy, il les mettait devant le Beit HaMikdash. Vous êtes ici, mes gars. Parce que le peuple avec moi, des fois, il y a des petites frictions. Vous attendez là-bas. Alors, il monte sur le misbéach. Et il dit, voilà, je vais faire la mitzvah de Nisuf Hamaim. Donc sur le misbéach, il y a ici une espèce de tunnel. Donc normalement, on fait comme ça, on verse. Alors lui, il est versé sur ses pieds. Il est versé par ses pieds. Il ne voulait pas verser les gens. Les gens qui étaient autour, ils ont tout de suite compris. Cet homme-là, il veut donner un gifle à la Torah. Il veut donner un gifle au peuple juif. Il veut manifester devant tout le monde, moi, je m'en fous de votre Torah orale. Moi, je ne crois pas à votre Torah orale et je fais à ma tête. Quelle était la réaction du peuple? Spontanément, ils ont tous pris leur étrope. Chacun avait son étrope. Ils l'ont bombardé avec des trogim. Hé, voyons, Tsuduki, et jette des trogim. Le type restera à des trogim sur la terre. Il commence à crier, égare, tentative d'assassinat sur le roi. Il va me tuer. Il est un cri hurlé. Les goyim, avec leur épée, ils rentrent, ils commencent à faire un massacre. Et ils commencent à tuer des gens.
Ah,
c'est Yannick qui a dit ça. Organisé ça. Il a mis devant la porte, il met un gaz. Et il a hurlé, tentative d'assassinat. Ils rentrent et commencent à tuer. Le peuple, il voit ça. Il voit les gens, ils tuent. Alors tout le monde veut se sauver. Mais comme ils étaient entassés l'une sur l'autre, chacun de ses sourires, alors eux commencent à tuer, frapper, puis qu'ils sourient, il y avait 6000 morts. 6000 morts ce jour-là, dans la Hazara, dans la Beth Amidash. Alors, le peuple était archi fâché, on peut s'imaginer quelle catastrophe. Au Beth Amidash, un tel scandale. Les morts, c'est grave, il a fait au Beth Amidash. C'est un rachat, un assassin. Tout le monde disait qu'il y en a un, mais là, c'est un assassin. Voilà, donc le peuple détestait ce monsieur.
C'est lui le beau-frère de...
Lui, c'est le beau-frère de Shimon Meshetar.
Et c'est le fils de Yohanan.
Lui, c'est le fils de Yohanan Rokunus. Alors, il y avait, après ce massacre, il y avait quelques juifs. Ce n'était pas officiel. On ne sait pas exactement qui est-ce qui a organisé. Alors, il y avait une délégation, on ne sait pas qui est-ce qui était la personne. Ils ont dit, on ne veut plus de ces Yannamelach comme roi, il faut les destituer. Mais comment on va les destituer? Il y a des juifs qui sont partis en Syrie. Et ils sont allés partir, ils sont partis chez le roi de Syrie, un chef d'armée. Ils ont dit, monsieur, nous avons un roi qui est fou, Yannamelach, on veut se débarrasser de lui. Venez avec nous, faites la guerre contre lui et débarrassez-nous de ce roi. C'était une petite partie, ce n'était pas une délégation officielle. Une petite partie des juifs, ils ont dit, on veut se débarrasser d'un roi sans lumière. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Syrie? Il a dit, mais avec plaisir, je viens. Il peut conquérir, il peut faire une guerre, parce qu'Yannamelach Abou, il a fait la guerre contre lui. Yannamelach, il a fait beaucoup de guerres. Avec les goyim qui louaient, il faisait des guerres partout. Il a gagné beaucoup de guerres, il a ajouté, il a agrandi l'Eretz Israël. Yannamelach, il avait la réussite d'agrandir l'Eretz Israël avec toutes les guerres qu'il a faites. Il s'en allait à la femme, ils n'étaient pas contre la guerre, mais il a loué des goyim pour faire cette guerre. Bon. Alors ce roi de Syrie dit, quoi, il y a des juifs eux-mêmes qui m'invitent de venir à Jérusalem, mais avec plaisir je viens. Ils sont venus et ils ont massacré une partie de l'armée de Yannamelach.
C'était l'armée juive, cette fois ou...
C'était, je ne sais pas, l'islam. Il y avait des juifs aussi dans son armée, sûrement. Mais les Icar, soldats des Yannamelach, c'était des goyim. Alors ils ont abattu une partie de l'armée de Yannamelach. Yannamelach était obligé de fuir. Quand c'est arrivé, ces juifs qui sont partis chez le roi goy, ils avaient honte. Ils ont dit, nous sommes des fous. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, il y a l'armée syrienne. On a encore plus des goyim, on est à Israël. Mais on est des fous, mais qu'est-ce qu'on a fait? Après Yannamelach, il a pris une autre armée, il les a combattus. Mais il était tellement fâché avec le peuple, il a commencé à faire la guerre contre son propre peuple, et ça a duré 6 ans, il a tué 50 000 juifs. Yannamelach, 50 000 juifs, il a tué parce qu'il a dit, c'est vous que vous êtes partis en Syrie. Et il a accusé spécialement les Chachamim. Il a accusé les Chachamim. C'est vous qui avez fait le coup. Et il semble que Flavius n'était pas d'accord qu'ils ont fait. Il y avait quelqu'un qui sont partis. Alors, il a massacré les Chachamim. Et la solennité du massacre a été. À un moment, il a fait un grand festin à Yannamelach. Il était avec plusieurs de ses femmes. Il avait plusieurs femmes à Yannamelach. Ce n'est pas un grand sadique. C'est un homme, ce qui concerne les femmes, n'était pas le grand sadique. Alors, il avait plusieurs femmes et des concubines. Et ils ont mangé et ils ont bu. Il était entouré par des tzedoukim. Il dit, monsieur le roi, vous savez quoi? Faites-vous plaisir. Vengez-vous bien devant ces gens-là qui ne voulaient pas que vous êtes le roi. Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse? Prenez tous ces rabbanim et fondez-les. Ils ont pris 800 des plus grands rachamim, on les a pendus, eux et leurs femmes et leurs enfants, en public. On l'a pris, ils ont pendu vivants Les Chachamim, 800 personnes devant tout le monde, et eux, ils se sont amusés. C'est impressionnant. Ça, c'était Yannemelech. Bon, je vous racontais déjà la semaine dernière, quand Yannemelech, il est mort, il a pris sa femme, sa sœur, sa femme, qui était la sœur de Shimon de Shetach. Et avant de mourir, il a dit, les Chachamim, ils ne vont pas se venger sur nous, parce que c'est des tzadikim qui ne se vengent pas. Les Tzadikim, ils ne vont pas se venger sur ma famille, parce que moi, j'ai tué leur copain. Mais il faut se méfier des gens qui se font passer pour des gens bien, mais en vérité, ils me détestent. Il avait peur des gens qui ne sont pas si tzadikim comme les Chachamim, qui ne se laisseront pas faire, qui vont se venger sur leur famille. Mais avant de mourir, il a fait encore un petit testament. Mais un testament, regardez qu'est-ce qu'il a fait comme projet. Il a dit, je sais que le jour que je vais mourir, les Juifs ils vont se réjouir. Enfin, on se débarrasser d'un tel rachat comme j'étais toute ma vie. D'accord, ils vont se réjouir, mais moi je ne veux pas qu'ils se réjouissent. Je ne veux pas qu'ils se réjouissent, je veux qu'ils pleurent pour ma mort, mais ils ne vont pas pleurer pour ma mort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une grande groupe de personnes, des Chachamim, et il les a enfermés au prison. Et il a dit à son serviteur, le jour que je meurs, tu vas les tous tuer. Et quand tu vas les tuer, il y aura un grand hurlement. Quand vous dites, le jour que vous dites, je suis mort, à ce moment-là, il faut que tout de suite, vous tuez ces gens-là aussi. Comme ça, le peuple va pleurer. Comme ça, ils ne vont pas se réjouir pour ma mort. Parce qu'ils vont pleurer pour la mort de ces gens-là. Un coup. Seulement, c'est Madame Flonction, sa femme, elle était au courant de cette histoire-là. Et elle est partie chez les gardiens. Et avant qu'il était en train de mourir, elle est partie chez les gardiens, elle les donne à la clé. Elle a ouvert la prison, elle dit sauvez-vous vite. Aujourd'hui, mon mari va mourir, vous savez. Il a donné les ordres de vous tuer aujourd'hui, sauvez-vous vite. Et le projet d'Elianaï n'a pas réussi. Ils ont pu se sauver. Yann, il est mort. Et en fait, les Juifs, ils étaient très, très contents qu'il est mort. Alors, maintenant, après qu'il est mort, ça je ne sais pas exactement si c'était après qu'il est mort ou avant qu'il est mort. En tout cas, Shimon ben Shetach est devenu indirectement celui qui gérait le peuple juif. Alors, il fallait mettre un peu d'ordre dans le peuple juif. Vous connaissez l'histoire des 80 femmes magiciennes? Vous ne connaissez pas? Ah, vous connaissez. Alors, il y avait dans le peuple juif différentes maladies. Une maladie, c'est qu'on avait déjà raconté qu'il y a des juifs qui partent en Égypte, beaucoup de juifs qui partent en Égypte, et des égyptiens qui sont venus en Terre d'Israël. Dans la société égyptienne, il existait la magie. Comme déjà à l'époque de Chumash aussi, il existait la magie. Il y a des juifs qui sont devenus toujours plus et plus égyptiens, et plus la mode de vie d'égyptien. Donc il y avait chez des juifs des magiciennes. Qu'est-ce qu'elles savaient faire, les magiciennes? Je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'ils avaient un balai? Ils pouvaient voyager un balai? Est-ce qu'ils pouvaient transformer un crapaud? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire. Mais plutôt, en tout cas, des magiciennes. Des vrais ou des fausses, je ne sais pas. Seulement dans la Torah, c'est marqué, les magiciennes, il faut les mettre à la mort. Donc Shimon ben Shetach, il a dit, il faut arrêter tous ces impuretés-là. Seulement, comme on fait normalement, on attrape quelqu'un, on l'accuse, on le prend à la mort, on l'exécute. Seulement, il y avait 80 femmes. Comment on va faire? Le même jour, les juger ou une après l'autre? La halakha dit qu'on n'a pas le droit de condamner à mort deux personnes le même jour. Mais si je fais aujourd'hui une, demain une, après demain une, entre-temps, ces magiciennes, tous les rechaïm en Eretz Israël, ils vont se réveiller, ils vont dire ça, et la famille me commence à éliminer. Et... Alors, ils vont se réveiller contre nous. Il faut que je fasse un coup pour que ça passe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, toutes ces magiciennes, elles habitaient à Ashkelon, dans une forteresse à Ashkelon. Alors, il a envoyé 80 bakourim. Je dis, vous devez allonger avec ces histoires-là. 80 jeunes gens qui sont costauds. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés un jour où il pleuvait fort. Ils avaient une cruche. Dans la cruche, ils ont mis un vêtement. Ils sont allés, ils se sont cachés devant la forteresse, pas derrière un mur, derrière les arbres. Il y en a un représentant, il frappe à la porte de la forteresse. Il frappe à la porte. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous voulez quoi? Je voudrais apprendre chez vous la magie. Ah, vous voulez apprendre la magie? Eh bien, on n'apprend pas, ça ne s'enseigne pas, ça c'est notre secret. Alors il dit, mais je peux vous apprendre aussi la magie. Alors il dit, ah, vous êtes magicien? Moi aussi je suis magicien, je connais des choses que vous ne connaissez pas, et vous connaissez des choses que moi je ne connais pas. Alors on va faire des échanges. Alors elle a dit, faites-moi quelque chose de magie pour que je vois que c'est des sérieux. Il dit, bon, vous fermez la porte, vous voyez comment il pleut. Oui, il pleuvait. Alors, bon, ça a arrêté une minute. Non, en tout cas, toute la journée, ça a pleut. Alors il dit, bon, vous fermez la porte. Je vous permets d'ouvrir la porte dans deux minutes. Vous allez voir quelque chose. Parce que moi, je fabrique avec la magie. Alors, elle ferme la porte. Tous les parents, ils étaient cachés derrière. Ils font sortir un nouveau manteau sec de leur cruche. Ils vont avec le manteau mouillé. Ils mettent un manteau sec, ils se mettent tous devant la porte. Deux minutes après, ils ouvrent la porte, il y a 80 jeunes gens, tout secs. Comment? Il pleuvait toute la journée jusqu'à maintenant. Comment il y a 80 personnes secs? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je viens de le faire avec de la magie. C'est extraordinaire. Alors, rentrez. Ils sont tous rentrés. Alors, chaque vapeur, il a pris une des femmes et l'a levée du parterre. Parce que quand la femme n'est pas par terre, elle ne peut pas faire de la magie. Il a levé et faire la porte peut faire de la magie. On les a tous attachés avec des cordes, on les a amenés chez Shimon ben Shetar. Qu'est-ce que Shimon ben Shetar a fait? Le Seigneur vient les a jugés, condamnés à mort, on les a tous pendus. Toutes les femmes étaient pendues, le même jour, on a pendu 80 femmes. Ça y est, comme ça, le peuple juif sait. Quoi? Ah, parce que, exceptionnellement, parce qu'il y a une halakha qui dit que le Sanhedrin a deux façons d'agir. Une façon dans un cas normal, une façon en cas exceptionnel. Comme la Havdil, quand il faut faire une guerre, par exemple, le roi, il a le droit de décréter la guerre, il a le droit de confisquer la voiture de n'importe qui. Imaginons qu'il y a une guerre. Alors, n'importe quel soldat peut prendre chez votre père, prendre sa voiture. L'armée a besoin de la voiture. Attendez, c'est pas la voiture de l'État. C'est au moment de la guerre, on appelle ça, comme on appelle ce moment, un moment exceptionnel. Il y a des lois dans la Torah. Il y a une loi qui est, en cas exceptionnel, quand il y a un danger qui menace le peuple, on est obligé d'intervenir d'une façon exceptionnelle pour une fois, pour remettre quelque chose en place. On a le droit de le faire en dehors des lois qui sont fixées dans la Torah. Donc, normalement, la loi dit qu'on n'a pas le droit de condamner Dieu le matin de 20 jours, mais en cas exceptionnel, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que si je tue une après l'autre, les gens ils vont se mobiliser, les femmes vont se sauver, et tout, on n'arrivera pas. Impossible à attraper une après l'autre. Il faut faire un coup, et comme ça, c'est fait. Bon, si on m'achète, il a payé ce qu'il a payé, il a payé très cher. Comment il a payé très cher? Parce que les familles de ces femmes-là se sont réunies. Ils sont venus un peu plus tard chez Shimon ben Shetar au Bedin. Ils ont dit, monsieur le rabbin, on a vu un meurtre. Il y avait un juif qui était mort. Il s'est fait tuer par qui? Par le fils de Shimon ben Shetar. Ils n'avaient pas plus, c'est pas moi, que d'accuser le fils de Shimon ben Shetar. Alors ils ont emporté le fils de Shimon ben Shetar. Ils ont dit, c'est vous qui avez fait le meurtre, je ne dis pas du tout. C'est un complot. Il y a deux témoins contre lui.
Oui, c'est des femmes.
Hein?
Des femmes, non?
Quoi des femmes?
Non, ça
va. Je n'ai pas compris.
Non, mais c'est des femmes qui sont venues
témoigner. Non, non, des hommes.
Ah, des hommes.
Non, non, des hommes. Non, non, non. La famille des femmes, non.
Ah, oui.
Ces femmes magiciennes, ils avaient de la famille. Ils ont loué deux faux témoins qui sont venus accuser les fils de Shimon ben Shetar. Hein? Oui, des juifs. C'était des femmes juives. Alors, Christophe, le fils de Shimon ben Shetar, ils l'ont tué. Et avant qu'ils l'ont tué, les témoins, ils ont regretté. Alors, les témoins, ils ont dit, excusez-nous, en vérité, on est des faux témoins, on nous a fait de l'argent pour faire ce coup de Shimon ben Shetar. Mais la halakha, il dit que les témoins qu'ils ont témoigné n'ont plus le droit de revenir en arrière. C'est comme ça la halakha. Hein? Non, d'après la Torah, on n'a pas le droit de croire. Il y a une halakha dans la Torah, c'est les témoins qui disent, on a menti, on ne le croit pas. Pourquoi la Torah, elle a dit ça? Parce que la Torah ne permet pas à un témoin de dire une chose après le contraire. La logique, elle n'est pas chute. Parce que sinon, chaque témoin est en danger de mort. Imaginons nos deux témoins, ils disent, Rouven a tué Shimon. Oui. Mais si le témoin, il peut retirer sa témoignage, qu'est-ce qu'il va faire? Rouven ou la famille de Rouven contre les témoins. Ils vont partir chez les témoins. Ils vont dire, retirez votre témoignage, sinon on va vous tuer. Vous tuez, je tue votre fils. Et écoutez, monsieur, vous dites au Bédine que vous avez menti, sinon je tue votre femme, je tue votre fils, je tue votre fille. Alors qu'est-ce qu'il va faire au témoin? Venez au Bédine, ça y est, je retire, je suis fou, non, j'ai menti, c'est faux. Donc, chaque témoin, il se trouve sous danger de mort, s'il peut retirer. Donc, qu'est-ce que la Torah elle dit? On ne peut pas retirer. On a dit, on ne peut pas retirer les témoignages. On ne peut
pas. Aussi, être tué.
Quoi?
Aussi, les
témoins ne
peuvent pas être tués.
Les faux témoins peuvent être tués seulement s'il y a deux autres rédits qui sont mazénim, qui racontent que ce jour-là, vous étiez ailleurs à un autre endroit.
Ah, okay.
Bon. Mais qu'est-ce que les témoins, ils ont dit, on est des faux témoins, on a reçu d'argent, tout est mal joué, mais voilà, c'est comme ça. Alors ils ont tué les fils de Shimon Hatzetef, mais tous les juifs ils savaient que c'était sûrement une vengeance à cause de cette histoire. Mais pourquoi Shimon Hatzetef il est parti tuer ses 80 femmes? Qu'est-ce qu'il a réveillé de le faire? Alors sur ça, il y a toute une histoire dans la Gemara. La Gemara nous raconte comme ça qu'il y avait un chacham qui est mitzav dans une ville, et un grand bandit est aussi mort le même jour. Alors il y avait deux enterrements le même jour. Donc ils ont porté le chacham, il y avait toute la ville qui était en train de porter le chacham, et il y avait les bandits, il y avait la famille autour de ce bandit, les deux ils sont partis dans un cimetière. Alors, sont arrivés des gardes concerts, ils ont attaqué le convoi pour voler l'argent. Qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils ont vite posé les deux cercueils, ils se sont sauvés. Après que les concerts sont partis, les gens sont revenus. Et quand les gens sont revenus, ils se sont trompés entre les deux cercueils. Tous les gens de la ville qui voulaient accompagner la Chacham, ils ont pris le cercueil du bandit. Alors il y avait un élève de ce Rav qui restait à côté du cercueil qui se passait. Il dit aux gens, vous vous trompez, c'est pas la Chacham, ça c'est le bandit. Et les gens, ils ont dit, non, ça c'est le bandit, ça c'est la Chacham. Alors l'élève, il a dit, j'étais à côté, je vous dis que vous vous trompez. Non, c'est vous vous trompez. Alors, tout le monde, ils ont pris le cancer dans son cercueil, ils l'ont mis dans la terre, ils ont pleuré, quel sapi, quel kadosh, quel truc. Et ils ont pleuré sur ce rachat. Et sur le tzadik, les gens disent, bon voilà, on t'a comme un vulgaire. Et l'élève, il est là en train de pleurer, il dit, quel honneur on fait à ce bandit et quelle honte on fait au racham. Bon, comme ça qu'il soit. La nuit d'après, cet élève, il a dormi, il a vu un rêve. Et dans le rêve, qui est venu chez lui dans le rêve? Le Chacham. Le Chacham, il a dit, tu sais, tu as beaucoup de tsar, pourquoi moi j'ai quitté le monde avec honte? Il dit, oui, j'ai beaucoup de tsar. Il dit, ça c'est parce qu'une fois j'ai entendu qu'on a fait honte à un Chacham et j'ai rien dit. Donc, c'est un autre qui m'a payé cette honte-là dans ce monde. Il a dit, et qu'est-ce qu'il y a avec le rachat? Il dit, le rachat, il a fait une fois une grande histoire. C'est pour ça qu'on lui a donné beaucoup de carottes, on a enlevé beaucoup de carottes. Alors il a dit, et maintenant maître, vous êtes où? Il dit, moi je suis au Gareden. Il dit, ah, le rachat, il est où? Le rachat, il est au Gareden. Tu veux voir où le rachat, il est? Il dit, je vais jeter un coup d'œil. Il lui a montré le Gareden, sa rure de feu et tout. On lui a porté la porte du Gareden. Alors la Gemara raconte comme ça, la porte du Gehinnom était dans l'oreille de ce monsieur. Et chaque fois que quelqu'un rentre au Gehinnom, on ouvre la porte, alors ça tourne dans son oreille et ça fait une immense douleur, ça tourne dans l'oreille de ce rachat. Et il voit comment le rachat le hurle chaque fois qu'on s'attourne. Alors, l'élève qui dort, il demande le chacham, il m'a combien de temps ce rachat, il doit encore souffrir et la porte du Gehinnom tourne dans son oreille? Alors il dit, jusqu'à qu'il sera remplacé par un autre rachat. Alors il dit, mais qui c'est l'autre rachat qui peut le remplacer? L'autre rachat, c'est Shimon Meshetar. Alors il dit, Shimon Meshetar, c'est le plus grand chacham des Juifs. Il dit, oui, mais au ciel, ils ont décidé qu'un Shimon Meshetar, il va remplacer ce rachat, que la porte de Gehinnom va tourner dans son oreille. Elle dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il a fait la vera. Il dit, mais quelle vera il fait? Il sait qu'il y a 80 femmes magicienne à Ashkelon, il ne fait rien. Et maintenant, il a le pouvoir de le faire. C'est lui maintenant le chef du Sanhedrin. Il a le pouvoir de le faire, il ne fait rien. Voilà, jusqu'à ici, le rêve, il était plus se réveiller. non, demain matin, il est parti chez Jésus, etc. Il dit, Rabbi, vous savez, j'ai fait tel rêve, et on m'a dit que vous êtes destiné à être là aussi, le port du Vietnam. Alors, Jésus, j'ai fait entendu ça, il dit, d'accord. Si le ciel est bleu, je crois que je m'occupe de ces femmes-là, et bien, je vais m'occuper. Alors, il s'occupait de ces 80 femmes. Bon, ça c'est une histoire de Shimon Meshetach. Il y a beaucoup d'autres histoires dans la gloire sur lui. Quoi?
Alors il a bien fait de faire ce qu'il a fait.
Il a bien fait, oui. Mais il a fini avec son fils. Mais il a fini avec son fils. Alors, sur Shimon Meshetach aussi.
Il a fait quelque chose qui
ne
fallait pas pour
qu'il
fasse avec son fils.
Non, ça a l'air avec son fils. Il a fait une autre raison. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce qu'il n'a pas agi trop vite, plus vite. Il aurait dû peut-être agir plus vite. Il a fait peut-être une autre erreur dans sa vie. Je ne sais pas. Alors. On peut faire une erreur et après on se fait rattraper par le ciel dans une autre histoire. Alors, maintenant il y a une autre histoire. Quand Yana Yamelech était le roi, je reviens en arrière, quand il était encore roi Yana Yamelech, il a nommé aussi un Sanhedrin, mais tous les membres du Sanhedrin étaient des Sadducéens. C'était des fondamentalistes, des rabbins libéraux. Alors, à un moment, Shimon Meshetach, il est redevenu le chef du Sanhedrin. Je ne sais pas si c'était encore pendant la vie de Yann Emelech ou après sa mort, ça je ne sais pas. Alors la Torah nous raconte comme ça. Shimon Meshetach est devenu le chef, et tous les Sanhedrin étaient composés par 70 ignares, les Tzedukim. Par exemple, il y a un halakha, un homme qui coupe la main de l'autre, quelle est sa punition?
On paye.
Et qu'est-ce qu'ils disent les Stoukim? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe la main. Aïn tachat aïn, yad tachat yad, taïga tachat regel. Les Stoukim prennent ça à la lettre. T'as coupé la main de l'autre, on coupe la main. T'as crevé l'œil, on te crève l'œil. Tachamis, on dit non. Moi, je l'avais dit autrement. On paye de l'argent, on tue pas. On coupe à la main. Alors, les Stoukim, ils avaient des lois très très cruelles. Alors, bon, si on achète, il rentre dans sa lèvrine. Bon, il se fait nommer le chef parce que tout le monde, il savait qu'il est plus capable que les autres. Les vrais Chachamim, où ils étaient pendus par Yann Emelech, où ils se sont sauvés en Égypte, on va encore parler de ça, de se sauver en Égypte. Alors, Shimon Meshetach, il devient le chef. Après, le lendemain, un jugement. Shimon Meshetach demande, quelle est la halakha ici? Alors, il y en a un qui dit, la halakha, elle est comme ça. Il dit, prouve-moi de la Torah que la halakha, elle est comme ça. Explique-moi. Il dit, de la Torah, je ne sais pas. Mais nous avons fabriqué un livre des lois. Les Stoukim, ils ont écrit Sefer Chukim. Un livre des lois, où ils ont pendu de leur tête, où ils ont pris des Grecs ou des Romains ou des Syriens ou de leur propre tête. Nous avons le livre de Chukim. Chez nous, c'est marqué comme ça les lois. Chez nous, Machet, il dit, mais nous sommes des Juifs, nous avons la Torah. Il dit, prouve-moi cette halakha de la Torah. Tu peux me le prouver? Il dit, je ne peux pas prouver. Il dit, bon, si tu ne peux pas prouver, s'il te plaît, tu quittes le Sanhedrin. Alors, il ne manque une place. Alors, Shimon Meshetach a dit, j'ai un élève. Il a dit, un élève, tu prends cette place. Le lendemain, une autre discussion. Quelle est la halakha ici? La halakha, elle est comme ça. Où c'est marqué? Dans notre livre. Prouve-moi de la Torah. Je ne sais pas. Bon, tu ne sais pas. Tu sors. Il a pris un deuxième élève. Et doucement, doucement, il a fait que tout le Sanhedrin était de nouveau composé par des chachamim. Alors. Et comme on parle des Chachamim, on les appelait Prouchim, les Chachamim. Prouchim. Séparés. Pas séparés du peuple, mais séparés des choses impures. Séparés de Touma, séparés de la Avera, les Prouchim, ils faisaient très attention de tous les halakhot comme il faut. Et le peuple n'était pas Prouchim, c'est pas tout le monde est dit, mais ils adoraient aux Chachamim. Ils adhéraient aux Chachamim, ils adoraient les Chachamim, ils étudiaient chez les Chachamim, même qu'ils ne se sont pas comportés avec tous les Chumrot que les Chachamim se sont comportés. Maintenant, il y avait des Tzedukim, c'était des gens très légers. Très légers, quatre pieds, et comme je disais, ils ne croyaient même pas au Olam Haba. Maintenant, il y avait une troisième secte, une vraie secte, pas une troisième secte, les Prouchim, ce n'était pas une secte. Les Stoukim étaient un secte. Il y avait une secte qui s'appelait les Issyim. Ça vous dit quelque chose? Issyim. Essayant. Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Non. Alors, qui c'est les Issyim? C'était des Juifs. Ils n'étaient pas beaucoup. D'après Flavius, il raconte qu'ils étaient 6 000 personnes, en tout cas dans son époque. surtout les millions de juifs, je dis 6 000, c'était des gens qui ont vécu de façon indépendante. Pas dans les villes, pas avec les autres juifs. C'était que des hommes, ils n'avaient pas des femmes, et ils ont vécu en groupe. Ils ont allé dans le désert, ou un endroit en dehors de la ville, ne faisaient pas de business, ils travaillaient la terre, très peu, ils mangeaient peu, ils buvaient peu, ils dormaient peu, et ils ont beaucoup étudié, et beaucoup de tfilotes, et ils ont vécu entre eux. Et ils étaient très gentils l'un avec l'autre, hein. Et ils mangeaient ensemble. Personne n'avait le droit de posséder quelque chose. Ce que tu as travaillé, tu as mis dans la caisse de la groupe, une espèce de kibbutz. Et quand ils mangeaient, tout le monde se mis autour. Tout le monde était habillé avec des habits très simples. On fait la bracha. On mange silencieusement. Une espèce de, comment on appelle ça? Une confrérie de Havdil, Elef Alfe Havdalot. Il existait chez les chrétiens, hein, comme des couvents. Des frères dans les couvents. On ne se marie pas. On n'élève pas des enfants. On vit comme ça pour Dieu, pour nous, gentils. Des tzadikim, mais bizarre. Des tzadikim bizarre. D'abord, on se sépare des femmes. On n'élève pas des enfants. On ne s'occupe pas de tous les métiers du monde. On ne s'occupe pas du peuple. Hein. Ils ont vécu comme ça en vase close. Et ils ont dit que le monde est tordu. Les gens, ils se font la guerre. La haine, on se tue, on vole, on triche. Ce monde est pourri, nous vivons entre nous correctement. On aime à quand même la Torah, ça suffit, plus que ça on ne peut pas faire. Et on pouvait rentrer dans ce club, dans cette confrérie, il fallait montrer qu'on est capable de le faire. Ça veut dire que tu ne parles plus avec les autres personnes, tu es capable de manger peu, tu es capable de vivre avec nous. Si tu ne corresponds pas à tous les critères qu'on demande, tu ne peux pas rentrer. Et si quelqu'un est rentré, il ne pouvait plus sortir de ce contexte. S'il est sorti, alors ça, c'est une trahison, alors il est chassé. Ça, c'est les issim. On dit que c'était des gens religieux, très religieux, mais ce n'est pas le chemin du peuple juif normalement. Les Chachamim ne se sont pas comportés comme les issim. Mais on les respectait quand même parce que c'était des gens droits. C'était en tout cas pas comme les tzoukim et pas des assassins. Ils ne faisaient pas des avérotes, c'était des gens gentils. Gentils et bizarres. Alors, on continue maintenant, Yann HaMelech, il est mort. Vous vous rappelez la mort de Yann HaMelech, hein? Il a demandé à tuer des Hachamim, mais après, Baruch HaShem, ils ont pu sortir. Donc, il y a combien des enfants? Il y avait 3 enfants. Donc, il y en a un qui s'appelle Vourkenos, Vourkenos, et l'autre, Aristoblus. Il y a encore un troisième. Bon, c'est là, ils se sont disputés. Ils avaient des adhérents, il y en a qui disaient Vourkenos, il y en a qui disaient Aristoblus va être le roi. Ils se sont disputés, à la fin ils ont décidé que Vourkenos sera le Kohen Gadol et Aristoblus sera le chef d'armée. Mais ça donnait un grand balagan. Ça donnait un grand balagan et le peuple juif s'est coupé en deux, ou plutôt en 3. Je vous ai déjà raconté un peu les guerres civiles que ça provoquait, mais en vérité, il y avait une histoire. Je vous ai parlé de Pompée.
Oui. Elle veut pas.
Hein?
Alors,
qui c'était Pompée? Je vais ajouter un petit peu qui c'est Pompée. Alors, Pompée, c'était le plus grand chef d'armée que les Romains ils avaient. Les Romains sont devenus toujours plus grands et plus puissants. Ils ont fait des guerres dans le monde entier, ces Romains. Ils ont fait la guerre contre les Grecs, ils ont conquis. Alors, un mot pour le monde romain, pour comprendre le monde romain. Qu'est-ce que c'est Rome? C'est devenu après l'empire, le plus grand empire du monde. À Rome, autrefois, il y avait une royauté. Après, c'est devenu une république, la République romaine. Ça veut dire qu'il y avait un sénat. Il y avait un sénat où il y avait 320 personnes, que eux, ils étaient les chefs. Il n'y avait pas un homme qui régnait sur Rome, mais c'était le sénat. Mais le sénat était composé par les, comment on les appelle, les patriciens. Ça vous dit quelque chose des patriciens?
Hein?
Quoi? C'est les bourgeois, exactement. Les bourgeois, les riches, les nantis, les nobles, Une partie de Rome, c'était composée par les riches, les gens qui avaient plus de droits que les autres. Et après, il y avait la plèbe. Vous savez qu'est-ce que c'est la plèbe ?
C'est ça.
Le peuple. La plèbe, ça veut dire c'est le simple. Donc le Sénat était toujours par la noblesse, hein, les patriciens. Après, il y avait... Hein, la plèbe, c'est le simple du peuple. Le Sénat était créé par les nobles, que par les patriciens. Après, ils ont décidé, les simples, ils ont dit, c'est injuste, pourquoi il n'y a que vous que vous avez l'argent? Pourquoi c'est vous que vous gérez? Alors, ils ont nommé des tribuns. Hein? Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire un représentant des pauvres qui a le droit de défendre les pauvres. Bon, après, comme ça, le monde a été jusqu'à un homme qui s'appelle Jules César. Ouais? Alors, ce Jules César, lui, il était un contemporain de Yann Ayamelech. Ça, c'était l'époque de Yann Ayamelech, Simon Mecheta, c'est la même époque. Hein? Tribun, c'est un représentant du plèbe pour un peu affaiblir la force du Sénat. Alors, Jules César, c'est un chef d'armée. Il a conquis la France, il a conquis la Gaule, etc. Et l'autre chef d'armée de Romain, il s'appelait Monsieur Pompée. Ce Monsieur Pompée, il est allé conquérir l'Est de l'Europe. La Turquie, la Grèce, le sud de l'Italie. Il est venu jusqu'en Syrie, il a conquis la Syrie, il a chassé toujours plus et plus les Grecs. Alors, un côté, c'est Pompée, il a pris l'Europe de l'Est, et Jules César, il a pris l'Europe de l'Ouest.
Il était indépendant, c'est-à-dire ?
Alors, ce monsieur Pompée est devenu le gendre de Jules César. Il s'est marié avec sa fille.
Mais c'était César qui dirigeait.
Attendez. Officiellement, c'est le Sénat qui dirigeait. Et eux, ils étaient les chefs d'armée, ils étaient obligés de rendre compte au Sénat. Alors, officiellement, ils étaient obligés de donner... Ils étaient dirigés par le Sénat. Alors, M. Pompée, il s'est marié avec les filles de Jules César. Et ils ont eu un enfant. Seulement, cet enfant, quand il est né, la femme est morte. Bon. Après que la femme est morte, il s'est marié avec une autre femme, M. Pompée. Avec qui il s'est marié? Avec la fille du plus grand ennemi de Jules César. Avec son ennemi. Alors, ils sont devenus des ennemis, Pompée et Jules César, ils sont devenus des ennemis. Hein? Je sais pas, j'ai oublié comment ils s'appellent. Bon, ils sont devenus des ennemis, ils se sont fait des guerres. César, il a gagné la guerre. Et après, Pompée, il se sauvé en Égypte. Et Jules César, il lui a envoyé des assassins pour l'assassiner. Il a assassiné Pompée. Et après, d'autres, ils ont assassiné Jules César aussi. Là-bas, chez les Romains, chacun, personne, aucun de ces rôles-là, il est mort sur le lit. C'est surtout ce qui a assassiné un après l'autre. Bon. Et maintenant, Pompée est encore vivant. Alors, ce Pompée, il est habitant à Damas. Il a toute son armée à Damas. Mais comme les Romains sont devenus toujours plus grands et plus grands, alors tous les gens qui voulaient gouverner un pays sont venus chez Pompée pour demander la permission. Alors, qui est venu chez Pompée? Trois délégations. Une délégation, les adeptes de Hourcenos. Une deuxième, les adeptes d'Aristoblos. Une troisième délégation qui voulait ni Hourcenos ni Aristoblos. Les adeptes de Hourcenos sont venus chez Pompée. Ils ont dit, Monsieur Pompée, nommez Hourcenos comme roi, qu'on se débarrasse d'Aristoblos. Les adeptes d'Aristoblos sont venus chez Pompée. Ils ont dit, venez en Eretz Israël et foutez-nous dehors sur Hourcenos. Une troisième délégation juive est venue et ils ont dit, Monsieur Pompée, foutez-nous dehors Hourcenos et Aristoblos, c'est tous des gangsters et qui nous laissent tranquilles. Et on veut ni cela, ni l'autre. Toutes ces trois délégations sont venues chez Pompée. Et qui des trois ils se trompaient? Qui des trois délégations s'est trompé?
La dernière. Ça veut dire quoi, ils
ont fait une erreur de partir se tromper. Qui? Tous. Tous les trois ils se sont trompés. Il ne fallait pas faire entrer Pompée. Tous les trois ils ont fait une erreur. Il ne fallait pas faire entrer se tromper. Mais quand Pompée a entendu qu'on l'appelle, il a dit, c'est très bien, moi je vais gérer vos affaires. Mais pour comprendre bien qui doit être le roi, laissez-moi rentrer à Jérusalem et je vais écouter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre pays et je vais gérer vos affaires. C'est-à-dire, trois juifs se disputent et ils prennent un goy comme juge. Qu'est-ce qu'il a fait ce goy? Il est venu avec son armée, il est venu à Jérusalem, il a fait un massacre, un bain du sang. Il est tout de suite contre avec Amidash, il a massacré tous les colons, tout le monde. D'abord, c'est lui qui est le chef. Et les juifs se sont arrachés les cheveux, mais on ne nous a pas demandé de massacrer. Mais oui, mais toi tu as dit que l'autre c'est un gangster, donc je le tue. Toi tu dis lui, donc vous êtes tous des gangsters, donc il faut que je mette l'ordre ici. Donc il s'est permis de mettre l'ordre chez les juifs. Il a nommé Hourkenos comme roi. Et il a nommé Hourkenos comme roi, et Aristobulus il est mis en prison à Rome. Mais en vérité, qui était le vrai chef? C'était Pompée. Depuis ce moment-là, jusqu'au Roman du Beth Amikdash, Eretz Israël a été soumis aux Romains. Ils ont perdu tout ce que les Hachmonaïs, ils ont lutté. D'abord, les Shemshamaïs, ils ont lutté pour rétablir l'autonomie juive pour qu'on puisse faire la mitzvot. Ça, c'est les Tzadikim. Après, sont venus les autres rois Hachmonaïs qui ont lutté pour l'autonomie. Avec cette guerre civile que les Juifs ils se sont fait, la sinatrinable qu'ils ont fait, ils ont fait amener les Romains pour que les Romains fassent la paix chez les Juifs, et bien les Romains, ils ont pris tout. Et à partir de ce moment-là, c'est eux qui ont nommé tous les gouverneurs juifs qui étaient en Eretz Israël jusqu'au Roman Beth Midrash, ils étaient tous nommés par les Romains. Et les Juifs, ils avaient plus d'autonomie, une demi-autonomie, oui, et on va voir la suite. Ça, c'était ce que la Gemara nous raconte, à cause de Sinatrinam, le deuxième Mikdash était détruit. Le deuxième Mikdash était détruit avec les Romains, mais qui a amené les Romains en Eretz? C'était les Juifs qui se disputaient entre eux. Ceux qui ont amené les Romains, ils ont amené ce conflit. Le Raman, il dit que tout ça, ça s'est marqué dans le Kumash. Enfin, ce petit tableau, c'était prévu à guerre et à l'Emaramana, à côté de Matamata. On va tout de suite voir comment ça fonctionne. Les Juifs, ils ont fait des erreurs sur des erreurs dans cette histoire, dans cette Sinatrien. Alors, bon. Alors.
Juste une question.
Oui.
Pompée, il a vu Jules César.
Oui.
C'est Pompée qui a envoyé
des. Non, Pompée, il s'est disputé avec Jules César après. Et c'est là qu'il a gagné la guerre, et Pompée était obligé de se sauver à la fin. Il s'est sauvé en Égypte, chez le roi d'Égypte, et César il a envoyé au roi d'Égypte, tue-moi ce Pompée. Et le roi d'Égypte, il avait un complot, ils ont tué Pompée. Et après, il y a d'autres personnes qui ont tué César aussi. Bon, ça c'était déjà partie de l'histoire romaine, ça ne nous intéresse pas tellement. Alors. Maintenant, on va revenir ici. J'ai dit que Pompée, il avait nommé Hourkenos comme roi sur l'Eretz Israël, comme roi et comme Kohen Gadol. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Pompée, il a pris Hourkenos? Pourquoi? Pourquoi pas l'autre, le frère? Alors, il y a ici un homme caché derrière. Et cet homme-là, sur la Torah parle de lui par allusion, comme dit le Ramban. Il y a ici un homme caché. Comment il s'appelle ce monsieur? Vous savez comment il s'appelle? Il a un nom un peu bizarre. Il s'appelle Antipater. Antipater. Qui c'est Antipater? Hein? Antipathique. Il est très antipathique, ce monsieur. Antipater, d'où il sort celui-là? Lui, c'était un Edomite. Un Jean, il est de Yarden, Hébra Yarden. Le pays des Édom, un descendant de Esav, et il faisait partie de ces gens-là qui étaient obligés de se convertir, ce peuple que je dis que Yochanan Hourkenos a converti tous les Édomiens. Lui, c'était un Eved, un esclave à la famille de Hachmonaïm, ce Antipater, c'est-à-dire un demi-juif, mais dans son intérieur, il n'était pas juif. Il était obligé de suivre le juif. Ça, c'est Antipater, mais seulement c'est un homme très puissant, et très rusé, et très réussi, était le chef d'armée, et lui, il est devenu l'ami de Pompée. Thomas, il se comportait comme un goy, il est parti chez Pompée. Hein? Il était un esclave de Hachmonaïm. Mais après, Yana Yamelach lui a donné un pouvoir. Quand Yana Yamelach, il a fait des guerres,
son chef d'armée, il s'appelait Antipater. Après la mort de Yanéamelech, c'est Antipater qui a tiré toutes les ficelles. Lui, il est parti chez Pompée, devenu son ami, et il a dit à Pompée, tu sais, il faut nommer Hyrcanus. Pourquoi il faut nommer Hyrcanus? Parce que c'est un homme faible qui n'a pas de punch. Aristobulus, il a du punch. Donc Antipater, il a dit, il ne faut pas laisser ces juifs régner. Si vous, monsieur le Pompée, vous voulez régner, donnez à moi à régner, pas les juifs. Et moi, nommer Hyrcanus, c'est un homme faible, et lui, il va tout faire ce que moi je veux. Mais Aristobulus, il s'oppose à moi. Donc Pompée, il a écouté. Et le vrai Aristobulus, il l'a mis en prison, il l'a jeté à Rome. Et il a nommé Hyrcanus roi. Et ceux qui géraient l'affaire, c'était Antipater. Et cet Antipater, il avait plusieurs enfants. Et comme il s'appelait l'enfant le plus connu de lui, alors il s'appelait Monsieur Hérode. Ça vous dit quelque chose? Hérode. Dans la Gemara, il s'appelle Vourdous. Hérode. Ça, c'était le fils d'Antipater. Et quand Antipater est mort, c'est Hérode qui est devenu le chef des Eretz Israël. Alors c'est Hérode, on pourrait pas l'analyser, on va voir un peu ce que Flavius raconte sur lui. C'est un fou furieux, c'est un dictateur, c'est un assassin, un malade, qui cherchait son cavote, et sa vie c'est une catastrophe, mais il a fait des bonnes choses aussi. On va voir qu'est-ce qu'il a fait des bonnes choses. Vous savez quelles bonnes choses il a fait dans sa vie? Hein? Oui, il a reconstruit, il a écrit beaucoup de villes en Eretz Israël. Il a fait des guerres, il a agrandi Eretz Israël. Il a encaissé beaucoup d'impôts qu'il a utilisés pour lui, pour ses jeux. La bonne chose qu'il a fait dans sa vie, qu'il a fait la rénovation du Beth Amidash. Mais nous allons voir doucement comment ça fonctionne. Oui, à Baba Ben. Alors, on va voir. C'est Antipater. Quand c'est Antipater, c'est Hyrcanus, quand il est devenu le roi. Alors, les Juifs ne voulaient pas qu'il vienne le roi. Pourquoi? Parce que c'est... D'abord, c'est pas un Juif. D'abord, c'est un esclave. À part ça, c'est un psychopathe, un voyou. Les Juifs ne voulaient pas. Mais pour le disqualifier, les gens, ils disaient, il n'a pas le droit d'être le roi. C'est un esclave, il n'est même pas Juif. C'est marqué dans la Torah, pas être roi sur les Juifs. Il faut être un Juif, il n'est pas Juif. Alors... Hérode, il a demandé, où c'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'être, que j'ai pas le droit d'être le roi? C'est pas marqué noir sur blanc. Dans la Torah, c'est marqué, Mikerev Achecha, Tassim Alecha Melech. Mikerev Achecha. Ça veut dire quoi, Mikerev Achecha? À l'intérieur de tes frères, un homme qui vient de l'intérieur de tes frères. Ça veut dire quoi, de l'intérieur et pas de l'extérieur? C'est-à-dire, un goy converti n'a pas le droit, parce qu'il est un frère de l'extérieur. Ou un esclave, on achète un esclave, il est de l'extérieur du peuple juif, il est bien à l'intérieur. Et Kerev veut dire aussi... Quoi?
Parmi les Kerev.
Oui, mais pas mi achecha, parmi tes frères, mi Kerev. La Gemara nous dit Kerev, ça veut dire aussi les intestins. Kerev, ça veut dire l'intérieur du corps, ça veut dire l'utérus. Depuis l'utérus de tes frères, ça veut dire qu'il faut qu'il sera né juif. Mais quelqu'un qui est né goy, né Eve, d'après se converti, il n'est pas Achicha, il n'est pas ton frère depuis qu'il est né. Donc il ne peut pas être roi. Alors Yavod, il a entendu ça. Il a dit, où est marqué dans la Torah que je n'ai pas le droit d'être le roi? Parce que c'est marqué, mais Kerev, mais qui a fait, qui a dit que Kerev, ça veut dire qu'il faut être né juif? C'est les rabbins. Ah, c'est les rabbins qui ne sont pas d'accord, et moi je serai le roi. Eh bien, c'est toujours les rabbins qui ont le problème. Alors je vais les massacrer, les rabbins. Donc il était à la chasse des rabbins, il les a massacrés. Alors, donc Hérode, il a décidé de quoi? Il a décidé de tuer la famille, il était à la chasse des rabbins. Il a encore une fois commencé à tuer la famille. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont fait la famille? Soit qu'ils se sont fait attraper, tuer, soit qu'ils sont partis en Égypte, qu'ils se sont sauvés. Il y en a un chacham qui l'a laissé vivant. Comment il s'appelait ce chacham? Il s'appelle Baba Ben Bouta. Baba Ben Bouta. Ça, c'était son nom. Et il dit, ce vieux-là, je laisse. Pourquoi? Parce qu'il me faut quelqu'un qui peut me donner des conseils. Alors, je laisse un vivant. après qu'il les a tous tués, il ne sait pas comment écouter. Il a fait quoi? Il a crevé ses yeux. Il a demandé à quelqu'un de crever les yeux, comme ça il sera aveugle. Comme ça, il ne va pas faire la rébellion contre moi. Si je le laisse avec des yeux, il va partir chez les gens, il va me faire un complot contre moi. Parce qu'il était toute la vie paranoïa, ce héros. Il avait tout le temps peur qu'on veut le tuer, ce qui était peut-être vrai qu'il veut le tuer. C'est un dictateur fou. Donc il a dit, mes ennemis, c'est mieux qu'ils sont aveugles, comme ça ils ne peuvent pas faire un complot contre moi. Un jour, ce héros, il voulait savoir, qu'est-ce qu'il vraiment pense de moi à la bataille. Alors il s'est déguisé, décidant tout à sa voix, et il est parti chez Baba Ben Gouta. Je l'ai déguisé comme ça, un peu juif et tout. Mais il vient chez lui avec les gens. Il dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous pensez de ce voyou-là, ce héros-là qui terrorise le peuple? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Alors il a dit, rien de spécial. Alors il a dit, mais vous, monsieur le rabbin, vous savez très bien qu'il est très méchant avec le peuple. Alors il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit, vous avez une force, vous pouvez maudire les gens, vous savez. C'est bien que vous le maudissez, comme ça au moins le peuple le sait. Vous allez le liquider comme ça. Alors Baba Ben Gouta dit, moi, je ne le maudis pas. Il dit, pourquoi vous ne voulez pas le maudire? Il a dit, c'est marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de maudire les gens. Alors il dit, oui, mais rapidement, ah ben, ça c'est un homme qui se comporte bien. Mais un assassin comme lui, on a le droit de maudire, non? Il dit, non, mais c'est un roi. C'est marqué, il ne faut pas maudire un roi. Alors, il a dit, non, mais c'est un gangster. Un roi qui est gangster, on a le droit de maudire quand même. Il a dit, non, je ne le connais pas. Pourquoi? C'est dangereux de maudire un roi. Il dit, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'imaginez-vous, il va l'entendre que je le maudis. Il va me couper la tête. Un héros, il dit, mais non, il n'entend pas. Il n'y a personne, il n'y a que moi ici. Et personne ne va savoir que vous le faites. Il dit, non, 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 le prophète, il dit que quand on prend dans quelque chose, même en cachette, ça peut être entendu. Aujourd'hui, avec Wikileaks, on sait que c'est vrai. On dit ici, dans la téléphone, tout est entendu. Là, vous connaissez l'histoire de Wikileaks? On entend tout ce que vous dites au téléphone, tout est entendu par les Américains, tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit aussi est entendu. Alors, il lui a marqué, oh, Hachem, il aurait été d'accord. Les oiseaux du céleste, ils emportent la voix. C'est-à-dire que je peux vous dire ici, il peut l'entendre. Alors il dit, vous avez peur que vous dites un mot contre Hérode, il peut l'entendre? Il dit, oui, oui, j'ai peur. Il dit, alors qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne fais rien. Un politique, il est fou, il est le truc, on ne peut rien faire. Eh bien, il faut souffrir, mais nous, on ne peut rien faire contre lui, c'est dangereux. Alors Hérode, il a dit, vous savez, monsieur le rabbin, c'est moi, Hérode. Vous avez bien fait de ne pas me redire. Parce que je vois que vous faites attention à vous. Alors, mais si c'est comme ça, tous les rabbins, ils pensent sur vous. Il ne faut pas se rébeller contre un dictateur. Il dit oui. Non, les Chachamim, ils ont toujours pensé comme ça. Il ne faut pas se rébeller contre un dictateur. Et il faut souffrir. Alors il dit, alors dans ce cas, j'étais obligé de tuer les Chachamim. Pourquoi je t'ai tué? Moi, j'ai tué parce que je me suis dit, les Chachamim, ils ont la coutume de faire rébeller le peuple contre le roi. Mais moi, je vois que vous êtes très prévoyants. Alors pourquoi je les ai tués? J'étais pas obligé de les tuer. Alors je fais un gaffe. Bon, je fais un gaffe. Alors, monsieur le rabbin, donnez-moi un conseil, comment je peux réparer ma faute. Alors, il dit, écoute-moi, t'as éteint la lumière dans le monde. Les Chachamim sont la lumière du monde. T'as éteint la lumière du monde, il faut le réallumer. Elle dit, comment je peux allumer, je ne peux pas faire traite. Mais dis-moi, il dit, une deuxième lumière dans le monde, c'est le Beth Amidash. Tu sais quoi? Tu fais une rénovation du Beth Amidash. Le Beth Amidash, il est dans une piètre état, avec toutes les guerres et tout ce qui s'est passé, combien des invasions Yerushalayim a subi, tout est cassé, tout est dans un piètre état. Fait quelque chose de beau, et comme ça, tous les juifs et tous les goyim vont venir célébrer les fêtes à Yerushalayim, au Beth Amidash, c'est une lumière, la Kedusha va sortir, vous allez faire un mitzvah. Alors, il dit, d'accord, je vais le faire. Mais comment je peux le faire? Il me faut beaucoup d'argent. D'accord, je trouve l'argent. Il était très riche. Mais il faut la permission des Romains. Mais les Romains ne donneront pas la permission. Alors, il m'a dit comme ça, tu sais comment tu fais pour Hérode? Tu commences à construire. Et tu dis rien aux Romains. Après, tu envoies une délégation aux Romains. Eux, ils vont réfléchir, oui ou non. Ils vont t'envoyer une réponse que non. Mais entre-temps, toi, tu l'as déjà fait. Il a préparé, il a donné beaucoup d'argent à Jésus, commencé à travailler des pierres. Il
préparé tout. Et après, il a envoyé une délégation à Rome. Est-ce que j'ai le droit à le faire? Alors, c'est venu jusqu'à Rome. Ils lui ont envoyé la réponse. Ne fais surtout pas la réunion de Tintouche. Et si tu as déjà commencé, tu arrêtes au milieu. Et si tu as déjà fini, tu es un voyou. Alors, quand ta réponse est revenue, tout était déjà fait. Tout était déjà fait. Et la grande raconte, il a fait quelque chose de merveilleux, du monde.
Paul Michel aura bien voudu, l'aura bien après bien. Quelqu'un qui n'a pas vu le bête des astéroïdes, il a fait, il n'a jamais vu qu'est-ce que c'est.
Il avait quelque chose de merveilleux et ça restait jusqu'au corban de Dieu de Tonique. Le Pignan, il a fait quelque chose de très poussé, il a organisé le Betamidas. Il a construit le Betamidas. Maintenant, on va un petit peu. Il y avait des histoires quand il était tout jeune, Hérode. Il y a une histoire qui est marquée dans la Gemara. Il y a une histoire qui, la même histoire est marquée dans Flavius. Dans la Gemara, on ne dit pas que c'était Hérode. On dit que c'était un esclave, mais on ne dit pas qui. Et Flavius dit qu'il s'agit de Hérode. Alors, je vais lire ici, c'était une histoire avec Shimon Ben-Shetach. Alors, je vais lire ici d'abord l'histoire de la Gemara. Après, on va lire comment Flavius raconte l'histoire avec un petit détail. Est-ce que vous avez ici, vous voyez ici où je mets mon doigt, page numéro 1, regardez ici, c'est marqué Antipater Mina. Vous avez ici, en hébreu. Tout ce que je raconte ici en quelques mots, c'est marqué sur la feuille. Bon, alors je lis ici Antipater, vous voyez ici.
Alors je lis. Antipater Mina du nom d'Urdus le Moshe Magali. Antipater, il a nommé son fils Urdus comme gouverneur du Lali. Il avait plusieurs fils, il avait trois fils. Chaque fils, il a donné un autre endroit pour venir en Israël. C'est pour Gmara Sanhedrin d'Afiouté. Il y a une histoire dans le Gmara Sanhedrin. Avdo chez Yanaï Hamelech, l'esclave de Yanaï Hamelech, Harag Adam, il a tué quelqu'un. Quel était ce Hébède, la Gmara? Le frère lui dit, il s'agit de Hérode. Hérode, il avait tué un juif. Pourquoi il y avait un juif, il y avait une bande d'honneur d'Israël qui n'était pas d'accord avec lui? Toute une histoire. Alors Hérode, il est allé et il a dit de l'assassiner. Ou c'est lui-même qui l'a assassiné. Alors, Amar Shimon ben Shetach la Chachamim. Shimon ben Shetach a dit au Chachamim, Tounou Enechem bo benidodenu. Nous allons juger ce monsieur. Nous allons juger, c'est donc le fils de Antipater. Alors il faut bien comprendre, il faut avoir beaucoup de courage de vouloir tuer un assassin qui est le fils du chef d'armée. Vous vous rendez compte? Il y a Yana Melech et là, après sa mort, c'est Antipater qui a pris. Il était le chef d'armée. Il a un fils. Ce fils, il a tué. Maintenant, tu vas aller juger le fils d'un homme qui était déjà à l'époque de Yana Melech. Et après la mort de Yana Melech, c'était Urkenos. Alors, ça, je ne sais pas si Yanemel est encore vivant ou pas. L'esclave de Yanemel, Antipater était l'esclave de Yanemel, Hérode aussi il était. Mettons, je ne sais pas si Yanemel il était encore vivant, ou c'est déjà à l'époque de son fils, qui s'appelait Hurkunos. Hurkunos, il a pris la place de son père Antipater.
Alors, ça n'a rien à voir avec les 80 sorcières.
Les 80 sorcières.
C'est pas l'histoire que...
C'est une autre histoire. Il y a une autre histoire, ce chien,
c'est
pas plus une histoire. Alors...
C'est son fils.
Qu'est-ce que c'est?
Avant,
vous avez
dit qu'il y a
Shimon Ben-Shetach. On parle plus du fils de Shimon, c'est parce qu'il est déjà mort au coup. Alors, non, Shimon Ben-Shetach, il a dit, nous allons juger le fils de Antipater, c'est-à-dire Hérode. Alors... Amar Shimon Shetach la Chachamim. Shimon Shetach dit au Chachamim, tu nous en echem pou. Mais invitez ce monsieur qui a tué, venez donner nous. Shalcholo la Yanaï, ils ont envoyé à Yanaï. Alors, soit c'est Yanaï, soit c'est le fils de Yanaï. Soit c'est le fils de Yanaï, c'est dire Urkenos. Avdecha harag Adam, ton esclave, il a tué quelqu'un. Shalach lehem et ta eved le bedin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Urkenos ou Yanaï? Ou Yanaï, Urkenos, je ne sais pas qui. Il a dit, voilà, s'il a tué, ben vous allez le juger comme assassin. Voilà, je vous l'envoie. Charles Cholo, alors Shimon Ben-Shetach, il a dit au roi, non, Gam Atad Balakan, tu dois venir toi. Parce que c'est marqué, quand on juge un taureau qui a tué,
il faut que le patron du taureau soit à côté. Quand un esclave tue, il faut que le patron de l'esclave, il est à côté. Donc, monsieur le roi, vous vous présentez devant la justice. Parce qu'on juge votre esclave, vous êtes obligé de vous mettre devant la justice. Donc, il faut avoir du pouvoir, il faut avoir du courage pour un rave d'inviter le roi à la justice comme accusé. Vous êtes accusé à la barre. Bavé la chave, il est venu. Qui est venu? Le roi s'assit. Alors, je ne sais pas si c'est Yannay ou le fils de Yannay. Yannay Melech, Amod al Raglecha, levez-vous, voyez Dobach pour témoigner. Velo le Fenein ou Ataomet, ce n'est pas devant nous, devant le Bedin, que tu es debout. Elle est le Fnimi, Shamar, Vaya Olam Ataomet. C'est devant Kadesh Bochou, Shenemar, Vam Tushni Anashim, Asherlehem Arif. Quand vous êtes accusé, vous êtes obligé d'être debout. Vous n'êtes pas assis. Vous êtes accusé, votre esclave est un assassin, vous êtes accusé, vous vous mettez debout, monsieur. Alors le roi il s'énerve. Le roi il dit si machetach. Lorsque je tomar ata el kmosh yomu chaverecha, ça ne marche pas comme vous voulez, ça marche après vos copains. Est-ce que vos copains sont solidaires avec vous? C'est-à-dire, lui, il a vu que si machetach, c'est un homme très, très religieux, qui est très sûr de lui. La Torah demande que vous êtes debout. Il a dit, mais les autres rabbins autour de lui sont faibles. Je vais les impressionner. Il a dit, vous avez des copains. Est-ce que vos copains, ils sont d'accord que moi, comme moi, je dois me mettre debout? Vous me faites honte? Alors, Nifne Shimon Echeter Limino. Shimon Echeter, regardez à droite pour voir si les rabbanim sont solidaires avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbanim? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça.
Connu. Ils avaient peur. Parce que s'ils vont dire, on est d'accord avec vous, Shimon Echeter, peut-être le roi va s'énerver contre tous. Oui, alors s'ils vont dire, non, monsieur le roi, vous n'êtes pas obligé d'être debout. Vous pouvez rester assis. Il parle contre la Torah. Shimon Echeter, il a dit, là, il dit que être debout. Ils ne vont pas contredire le maître. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait?
On fait comme ça. On est
aux abonnés absents. On n'a pas entendu la question. Quand on ne sait pas répondre, on fait comme ça, je ne suis pas là. Alors, Amor, alors, l'ismolo, alors il regardait à gauche, qu'est-ce que les hachimim à sa gauche ils disent? La même chose. Amar lehen, shimon shetach, il dit, ba'ale machshavot atem, vous réfléchissez trop, vous êtes des conspirateurs. Yavo ba'al machshavot li paramekem, akadosh va venir et va vous punir. Que vous n'osez pas à lui dire la vérité. La Torah demande qu'il sera debout, vous devez m'aider. Eh bien, vous allez être puni. La Gemara raconte comme ça. La Gemara finit avec un mot mystique. Ba miyad ba Gabriel. L'ange Gabriel est venu, khaftan bekar kavametu, il les a jetés par terre, ils sont morts. Normalement, quand la Gemara raconte ça, ça veut pas dire qu'ils sont morts sur terre. C'est-à-dire au ciel. Toujours la Gemara n'est pas venue. Le malak au ciel, il a condamné mort. Ils sont morts, c'est-à-dire qu'on est chamas quelque chose, il y a une bizarre marée sur le Khachamim. Et après, à quel moment ils sont morts? Après qu'on retrouve, c'est devenu le roi. Quand il est mort, il a tué le Khachamim. Mais en vérité, pourquoi il les a tués? Parce qu'ils ont fait ici une erreur, ils ne voulaient pas être solidaires avec nous. Ici, on apprend, là-bas, on nous raconte quelqu'un qui fait la Khanitout. Vous savez qu'est-ce que c'est la Khanitout? On flatte une personne. Si on flatte une personne, ça va. Mais on flatte un rachat. C'est interdit de flatter un rachat. Vous n'êtes pas flatté. Imaginez un homme qui tue. Et vous êtes à côté. Alors, le rachat, il dit, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Que j'ai bien jugé mal agi. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Vous avez mal agi. Maintenant, si moi j'ai dit, non, vous avez bien agi. Quelqu'un il m'a dit, prenez de l'argent et dites que j'ai bien agi. Un voleur, il a peur d'être accusé. Il dit, il donne de l'argent et il dit que je ne suis pas voleur. Non, il n'est pas voleur, c'est bien, c'est l'autre qui a commencé l'affaire, il avait raison de le faire. C'est flatter un voleur, c'est astro-pinatoire.
Il va le tuer après, si le flatteur, il le tue.
Si elle est en danger de mort, on a.
Mais là, il est en danger de mort.
Et bien, si on est tout à fait considéré, maintenant vous n'êtes pas en danger de mort. Maintenant, nous sommes en Sanhédrin et il est venu se présenter. Donc, maintenant, il faut lui rentrer dedans.
ayez pour avoir du courage. Si on s'est reconsidéré, maintenant il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. Il va accepter. Tu mets debout, oui, vous mettez debout. Plus il y a la mère qui l'a dit. Vous êtes le seul de dire debout ou c'est les copains. Si les copains disent, on est là avec le maître, il se dégonfle. Il va accepter. Mais vous avez cassé tout, vous l'avez flatté. Alors, à la fin, c'est arrivé que vous tous avez massacré tous les rachamim. Sauf si moi, j'ai fini par massacrer. Si j'ai fini par massacrer. C'est comme ça les destins. Ceux qui flattent les rachats, on leur raconte, Kol ha machis les rachats, le sang n'a pas été choqué à vous. À la fin, on tombe dans la main de ceux-là. Et il ne faut pas être marqué, sauf en vrai danger de mort, on a le droit. Après, la nous raconte, mais l'Odan de l'Odan inoto, l'Omé de l'Omé inoto. La nous raconte, après cette histoire de Chinois M.C.T.A.T., après qu'on nous aussi les plus la Khachamim, Khachamim, ils ont dit, un fou furieux, on ne peut pas juger. Si le roi est fou furieux, il ne faut pas le juger. À la fin, il s'est vengé sur tous les Khachamim. Maintenant, ça, c'est l'histoire qui est marquée dans la Gemara. Alors, je vais lire encore vite en français. Flavius raconte presque la même chose, un peu différent, mais presque la même chose. Je lis ici ce qui est marqué dans Flavius en français. Vous avez en français?
C'est marqué dans l'Antiquité libre. Alors, rapporte ce récit avec quelques plus bonnes explications et précise que l'assassin était le généraux. Là, c'est le fils Hérophile d'Antipater, a tué Cheskia et plusieurs de ses compagnons en violation de notre loi, de la Torah qui est interdit de donner la mort à un homme. Un homme. Fut-il un criminel s'il n'a pas été auparavant condamné à cette peine par la Sanhédrin. Et il a osé le faire sans avoir demandé permission. Hérode, il avait tué là-bas des gens. Hourkanus, ébranlé, lui raconte c'était Hourkanus. La Guano raconte c'était Yanaï. Hourkanus, c'est le fils de Yanaï. Hourkanus, ébranlé par leur plainte, cita Hérode pour répondre aux accusations portées contre lui. Hérode, il est venu au Bédine. Son père, qui c'est Antipater, lui conseille de se présenter non comme un simple particulier, mais en se faisant suivre d'une troupe nombreuse. Ça veut dire Hérode, il est venu avec des soldats au Bédin, et qu'il n'arriva cependant ni désarmé ni sans garde pour comparaître en justice. Cependant, Sextus, gouverneur de Syrie, écrit à Hourkanus pour l'inviter à absoudre Hérode, ajoutant des menaces pour le cas où on lui désobéirait. Le roi Goy a envoyé une lettre à Hourkanus et il a dit: tu vas sauver le fils de mon ami. Il ne faut pas que le Seigneur le condamne à la mort. Donc il y avait une pression goy, absoudre. Absoudre, ça veut dire pardonner à Hérode ce qu'il a fait. Quand Réton se présenta au Bédine avec son escorte, il en imposa d'abord à tous, et aucun de ceux qui le décriaient avant son arrivée n'osa plus soutenir l'accusation. Personne ne bougea. On ne savait quoi se résoudre. Il est venu avec garde-corps au Bédine. Alors, telle était la situation lorsqu'un certain Shimon ben Shetach, homme juste et par conséquent au-dessus de toute crainte, se levait et dit: vous, roi, jamais je n'ai vu aucun des hommes appelés par vous en justice avec pareille attitude. Et je ne suppose pas que vous puissiez de votre côté citer un tel exemple. Quiconque arrive devant cette assemblée pour être jugé se présente humble. Un homme qui est accusé des meurtres, il se présente humble dans l'attitude d'un homme craintif, implorant notre pitié, revêtu de vêtements noirs. Et cet excellent héros, prévenu de meurtre et cité sous ce chef d'accusation, comparé drapé de la pourpre, la tête ornée d'une coiffure savante, entourée de soldats, afin que si obéissant à la loi, nous le condamnons, il puisse nous tuer et nous sauver violent le droit. C'est-à-dire, Hérode, il arrive avec des soldats devant le Bédin, et on veut qu'on le juge de cette façon-là. Au pitié, qu'est-ce qu'il a fait ce Hérode? Ça veut dire qu'il veut nous impressionner. Comme ça, si on le condamne, il peut tout de suite nous tuer. Je ne fais aucun reproche à Hérode s'il met ainsi son propre intérêt au-dessus de l'égalité. Je comprends Hérode très bien que lui, il veut sauver sa peau. Mais c'est à vous que j'en fais au roi. Il parle à Hourkanus. Je veux vous lui avoir donné pareille licence. Il dit à Hourkanus: monsieur le roi, comment vous permettez un homme qui est accusé à mort et j'en présente au Bédine, comment vous permettez que lui vienne ici avec des soldats? Sachez cependant que Dieu est grand et que cet homme que vous voulez aujourd'hui absoudre par égard pour Hourkanus vous châtiera un jour, vous et le roi lui-même. Sa prédication s'est réalisée car Hérode, quand il fut empereur de la royauté, fit mettre à mort tous les membres du Bédine et Hourkanus lui-même. Il est dit: Hourkanus, vous faites maintenant la chanifoute à ce Hérode, vous lui faites la chanifoute, vous allez le payer. Il est dit à tous les Bédines: vous allez le payer si vous n'allez pas condamner. Alors, et il fit mettre à mort tous les membres de Bédine et Hourkanus lui-même. Il fit exception pour Shimon, car il estimait fort son honnêteté. Hérode n'a pas tué Shimon Shetach. Quand Hourkanus vit les membres du Bédine
penché vers la condamnation à mort d'Hérode et renvoyer le jugement un autre jour. Ça veut dire, Shimon ben Yetzer, il avait condamné à mort, et Rouken aussi l'a dit, laissez encore 24 heures de réflexion. Décidez que demain, faites-le que demain, et pendant la nuit, puis on dépêcha secrètement un messager à Hérode pour lui conseiller de s'enfuir de la ville, seul moyen d'échapper au danger, Hérode se refuge à Damas. Et pendant cette nuit-là, Hérode, il s'est sauvé à Damas et il ne s'est pas fait tuer.